La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Avec aujourd'hui les conseillers référendaires
Séverine Técher
et François Lemay.
Bonjour Séverine, avant de faire un focus sur un arrêt du 28 juin 2023 que nous décrypterons ensemble et qui est consacré aux entreprises à statut, nous commençons par évoquer l'actualité avec trois décisions de la Cour de cassation. Les deux premières sont du 7 juin 2023, elles portent sur la requalification des contrats aidés. La troisième, elle, est du 5 juillet 2023 et concerne l'obligation de contrôle de la durée du travail comme expression de l'obligation de sécurité de l'employeur. Nous abordons d'abord la question de la requalification des contrats aidés avec deux affaires dans lesquelles les salariés, ayant conclu pour l'un un contrat d'accompagnement dans l'emploi et pour l'autre un contrat d'accès à l'emploi, sollicitaient la requalification de leur contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Mais avant, Séverine, pourrais-tu nous expliquer ce que sont ces deux contrats ?
Le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de droit privé qui est réservé aux personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. Relevant du secteur non marchand, ce contrat est conclu avec les personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif, les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Il peut aussi être conclu en application de conventions passées entre ces collectivités, organismes, personnes morales et sociétés, avec l'État ou le Conseil départemental. Seuls les emplois visant à pourvoir des besoins collectifs non satisfaits peuvent faire l'objet d'un contrat d'accompagnement.
Et qu'en est-il du contrat d'accès à l'emploi ?
Il s'agit également d'un contrat de droit privé qui a pour objet de favoriser l'insertion professionnelle. Il est pour sa part applicable dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est réservé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux chômeurs de longue durée, aux personnes reconnues handicapées et à certaines personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Relevant du secteur marchand, pour sa part, ce contrat est conclu en application de conventions passées avec l'État par des employeurs.
Ces contrats sont-ils tous des contrats à durée déterminée ?
Non, ils peuvent être conclus pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Pour certains contrats aidés conclus pour une durée déterminée, la Cour de cassation s'est interrogée par le passé pour savoir s'ils pouvaient avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En effet, l'article L1242-1 du Code du travail l'interdit pour les contrats à durée déterminée classique, comme, par exemple, les contrats conclus pour effectuer le remplacement d'un salarié absent ou encore en cas d'accroissement temporaire d'activité. Alors, pour les contrats aidés, la Cour de cassation a-t-elle admis qu'ils puissent pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ?
Oui, elle l'a admis pour les contrats emploi-solidarité en 1999 et pour les contrats initiative emploi en 2003 et 2005. Les deux arrêts présentés aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre de cette dérogation. Ils étendent le champ de cette dérogation aux contrats d'accompagnement dans l'emploi et aux contrats d'accès à l'emploi. Dans ces affaires, les salariés concernés ne pouvaient donc obtenir une requalification de leur contrat de travail en contrat à durée indéterminée au prétexte qu'elles avaient été engagées pour un emploi lié à l'activité normale et permanente de leur employeur.
Le troisième arrêt de notre rubrique, actualité, porte sur l'articulation de deux obligations dont l'employeur a la charge. L'obligation de sécurité d'une part et l'obligation de contrôle de la durée du travail d'autre part. Que recouvrent ces deux obligations ?
L'obligation de sécurité découle des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Elle implique, pour l'employeur, à la fois de prévenir la réalisation du risque et de prendre les mesures appropriées lorsque le risque survient. L'obligation de contrôle de la durée du travail poursuit également un double objectif. l'établissement des heures de travail accomplies par le salarié et la prévention de durée excessive de travail. En 2019, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé qu'afin d'assurer l'effet utile des droits prévus par la directive de 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et du droit fondamental consacré à l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui porte sur les durées maximales de travail et les temps minimaux de repos, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible, permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 5 juillet dernier, des représentants du personnel et des syndicats contestaient le respect par l'employeur de son obligation de sécurité. Parmi les manquements invoqués, ils reprochaient à l'employeur de ne pas avoir mis en place un dispositif de contrôle du temps de travail. La question se posait alors de savoir si ce manquement était caractérisé et s'il pouvait constituer une violation de l'obligation de sécurité. Mais la Cour de cassation n'avait-elle pas déjà été amenée à faire le lien entre l'obligation de sécurité et le contrôle des heures de travail ?
C'est exact. Un tel lien a été fait en 2022 dans une affaire mettant en cause une convention de forfait en jour. Ce dispositif permet à un employeur de prévoir qu'un salarié travaillera non selon la durée de travail prévue par la loi, c'est-à-dire 35 heures par semaine, ou par un accord collectif, mais sur la base d'un forfait en jour. La conclusion d'une convention de forfait en jour est soumise à des conditions. Et dans sa mise en œuvre, il appartient notamment à l'employeur d'assurer un suivi de la charge de travail du salarié. La Cour de cassation a retenu dans cette affaire qu'un préjudice pouvait résulter pour le salarié du manquement de l'employeur à son obligation de protection de la sécurité et de la santé lorsque ce dernier ne justifie pas avoir pris de dispositions de nature à garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable. Et antérieurement, en 2010, la Cour de cassation avait précisé que les règles énoncées par la directive de 2003 en matière de repos, constituent des prescriptions minimales nécessaires pour assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
L'arrêt du 5 juillet 2023 a pour intérêt de montrer que l'obligation de contrôle de la durée du travail est une composante de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur.
Tout à fait. Mais il faut bien comprendre que par cet arrêt, la Cour de cassation n'a pas entendu dicter à l'employeur un mode de contrôle de la durée du travail dont la définition relève de son pouvoir de direction ou de la négociation collective. Elle signifie uniquement que la seule faculté laissée aux salariés de procéder par eux-mêmes aux déclarations d'heures supplémentaires et le fait que des négociations collectives étaient en cours ne peuvent pas valoir exécution par l'employeur de son obligation. Et nous poursuivons la sociale Le Mag avec notre décryptage qui porte sur un arrêt du 28 juin dernier. Cet arrêt est relatif à l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des éléments du statut du personnel de l'industrie électrique et gazière. François, pour bien comprendre cet arrêt, il nous faut faire un peu d'histoire. L'histoire des entreprises à statut.
Effectivement, Séverine, et cette histoire commence avec l'extension, au début du siècle dernier, à la sphère économique de la notion de service public. Le législateur a alors voulu imposer aux sociétés de droit privé, attributaires de concessions de services publics, comme par exemple l'exploitation de lignes de chemin de fer ou la distribution de l'électricité et du gaz, un statut avantageux à leurs salariés. Il s'agissait d'assurer la continuité de ces services par un statut professionnel garanti par la puissance publique. Ainsi, dès leur origine, les statuts professionnels se rattachaient à l'exercice du service public.
Mais cette organisation économique a été revue selon les lignes définies par le Conseil national de la Résistance dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, dans son programme, ce Conseil s'est accordé en particulier sur la nationalisation des grands moyens de production monopolisés des sources d'énergie et des richesses du sous-sol. C'est dans ce contexte que de nombreuses entreprises privées, attributaires de concessions de services publics, ont été nationalisées. Ainsi, le plus souvent, la présence d'un statut de caractère législatif ou réglementaire est allée de pair avec le contrôle public de l'employeur.
Mais ce n'est qu'avec le développement de la négociation collective que la notion d'entreprise à statut s'est cristallisée.
Tout à fait. C'est poser la question de savoir quelle norme faire prévaloir. La norme statutaire ou la norme conventionnelle, c'est-à-dire l'accord collectif qui soit de branche ou d'entreprise. Le législateur y a répondu par une loi du 11 février 1950 qui énonce que lorsque le personnel d'une entreprise publique n'est pas soumis pour les conditions de travail relevant des conventions collectives à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues.
Les entreprises à statut ont ainsi été définies en creux par l'affirmation de la primauté du statut sur l'accord collectif.
Oui, on peut considérer que le statut ne vaut que par l'éviction de l'accord collectif qu'il implique. On constate également que la loi rapporte le statut et son effet d'éviction à la propriété publique de l'entreprise.
Cela signifie-t-il que les entreprises à statut sont restées extérieures au développement de la négociation collective ?
Eh bien non, parce que le champ de la négociation collective couvre le personnel non statutaire de ces entreprises. En plus, la troisième loi Auroux du 13 novembre 1982 a prévu la possibilité de compléter les dispositions statutaires ou d'en déterminer les modalités d'application, dans les limites fixées par le statut, bien sûr, par des conventions ou des accords d'entreprise. Bref, conformément à cette loi, le champ est libre pour la négociation collective dans les entreprises à statut, sous la seule réserve qu'elle n'aille pas à l'encontre du statut. On peut ajouter que certaines mines de fer, des chemins de fer d'intérêt local et certaines entreprises d'électricité ont échappé aux lois de nationalisation. Aussi, la loi du 13 novembre 1982 a étendu la règle d'exclusion des dispositions conventionnelles contraires à ces entreprises privées lorsque leur personnel est régi par le même statut particulier que celui d'entreprise ou d'établissement public.
Mais François, une question de compétence se pose. Les entreprises à statut, qui sont le plus souvent des sociétés, emploient des salariés sous contrat de droit privé. Pourtant, leur statut, qui définit les conditions d'emploi et de travail, est lié à la mission de service public confiée à leur entreprise par l'État. Les juridictions de l'ordre judiciaire, à la différence des juridictions de l'ordre administratif, ne peuvent pas connaître de l'action de l'administration. En cas de litige relatif à la relation de travail, à quel juge le salarié doit-il s'adresser ? Au juge administratif ou au juge judiciaire ?
Le tribunal des conflits, qui est une juridiction composée en nombre égal de membres de la Cour de cassation et de membres du Conseil d'État, et dont l'office est de tracer la ligne de répartition des compétences entre les ordres administratifs et judiciaires, a apporté une première réponse avec l'arrêt Époux Barbier du 15 janvier 1968. Les époux Barbier contestaient la disposition du statut du personnel de la société Air France, une société commerciale qui prévoyait, pour les hôtesses de l'air, que leur mariage emportait la cessation de leurs fonctions. Le tribunal des conflits a déduit de ce que la société Air France était une personne morale de droit privé, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de se prononcer, au fond, sur les litiges individuels concernant les agents non fonctionnaires. En revanche, les juridictions administratives sont bien compétentes pour apprécier la légalité du statut réglementaire qui, touchant à l'organisation du service public, présente un caractère administratif. En effet, les dispositions du statut, en son intégralité, apparaissent comme des éléments de l'organisation du service public exploité. Ont par nature ce caractère d'acte administratif les actes de portée générale relatifs aux conditions de travail et d'emploi qui complètent ou appliquent ce statut.
Oui, mais nous avons vu que même dans les entreprises à statut, la négociation collective était possible, voire encouragée, soit pour compléter et appliquer le statut, soit pour les salariés qui ne sont pas couverts par le statut. Lorsqu'on est en présence non pas d'un acte unilatéral, mais d'un accord collectif, quelle est la juridiction compétente ? La juridiction administrative ou la juridiction judiciaire ?
Dans son arrêt voisin du 15 décembre 2008, le tribunal des conflits a retenu que les contestations portant sur la légalité, l'application ou la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise relèvent, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire. Par la suite, dans un arrêt du 11 avril 2022, le tribunal des conflits a considéré que, par exception, sont de la compétence du juge judiciaire les contestations de la légalité de mesures unilatérale et générale déterminant les conditions de travail du personnel prises par l'entreprise à statut lorsque ces mesures complètent un accord collectif. Dans cette hypothèse, il est considéré que la compétence pour connaître de la légalité des accords collectifs emporte celle relative à la légalité des mesures unilatérales qui s'y rattachent.
Dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt du 28 juin dernier, une fédération et un syndicat contestaient devant le juge judiciaire des décisions de la société Réseau de transport électrique, la société RTE, dénonçant des mesures relatives à la mobilité des salariés et en adoptant de nouvelles. La société RTE, qui est une société à capitaux publics gestionnaire du réseau de transport national d'électricité, a contesté la compétence du juge judiciaire pour connaître de la légalité de ces décisions en invoquant leur caractère d'acte administratif. Selon elle, ce caractère découlait de ce que, portant sur la définition des conditions de travail et d'emploi, ces décisions unilatérales et générales participer de l'organisation du service public exploité par la société.
Tout à fait. Et dans la ligne de la jurisprudence Époux-Barbier, en l'absence d'accord collectif régissant la mobilité des salariés et dans la mesure où, en plus, le statut contenait des dispositions spécifiques aux frais professionnels et à la mobilité, la Cour de cassation ne pouvait que retenir l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de la légalité des décisions de la société RTE.
Mais nous avons vu que la loi rapporte l'effet exclusif des accords collectifs que produit le statut au caractère public de l'entreprise. Et dans le champ spécifique des industries électriques et gazières, s'est posée la question du maintien de ce critère.
En effet, et pour deux raisons. La première, elle est historique. Elle date de la loi de nationalisation de l'électricité et du gaz de 1946, qui a institué un statut qui a pour particularité de ne pas être le propre des anciens établissements publics et industriels EDF et GDF, mais de s'appliquer à tout le personnel de l'industrie électrique et gazière et de couvrir ainsi les entreprises de production et de distribution exclues de la loi de nationalisation. On a ainsi un statut qui régit les conditions de travail d'un secteur d'activité de manière comparable par son champ d'application et par son objet à un accord de branche sans considération du caractère privé ou public des entreprises qui y sont soumises. La seconde raison, elle est plus récente. Elle remonte au mouvement de libéralisation du secteur des industries de l'électricité et du gaz et à la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Sans qu'il soit renoncé au statut, cette loi a profondément modifié l'économie de la production de la norme sociale collective au sein de ce secteur des industries électriques et gazières. Elle a créé la branche des industries de l'électricité et du gaz tout en mettant en place des mécanismes favorisant le développement d'une négociation collective de branche. Cette réforme s'est en particulier accompagnée de l'abrogation par un décret du 17 décembre 2001, de la disposition qui autorisait le ministre de l'Industrie et du Commerce à fixer les modalités d'application au personnel des entreprises exclues de la nationalisation des mesures prises par EDF et GDF. Cette disposition garantissait l'unité des règles statutaires applicables au secteur des industries électriques et gazières tout en confiant la définition aux seuls établissements publics nationaux.
Aussi, François, dans le secteur des industries électriques et gazières, les règles de portée générale d'application du statut sont désormais fixées au niveau de la branche par accord de branche et au niveau de chaque entreprise par accord d'entreprise ou par mesure unilatérale de l'employeur, que celui-ci soit privé ou public.
Effectivement, et c'est pourquoi, pour retenir l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit des juridictions administratives pour connaître de la légalité des décisions unilatérales relatives à la mobilité au sein de la société RTE, la Cour de cassation n'a pas fait état du caractère public de cette société. Elle a au contraire énoncé pour toutes les entreprises du secteur que les conditions d'emploi et de travail du personnel ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail sous la réserve des exceptions que nous avons évoquées, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif. Elle a ajouté que les décisions sur la mobilité sont des éléments de ce statut.
C'est la fin de notre podcast. Les arrêts peuvent être retrouvés sur le site de la Cour de cassation avec les numéros de pourvoi 21 19 784, 21 18 606, 22 10 702 et 21 24 122, ainsi que s'agissant de ces deux derniers arrêts, à la lettre de la Chambre sociale. Vous trouverez par ailleurs les références des arrêts cités dans ce podcast sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque.
Merci Séverine.
À bientôt François.